8h sur France Culture, le journal Valentin Bertrand. Bonjour Valentin.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Chasse à la collaboration en Ukraine, les procès s'enchaînent surtout dans les villes. Reprise à la Russie, reportage en début de journal.
La colère monte dans les campus américains depuis une série d'arrestations dans une manifestation pro-palestinienne.
L'ancien directeur de Frontex et numéro 3 de la liste RN aux européennes, Fabrice Leggeri, visé par une plainte pour complicité de crimes contre l'humanité. Ce sera le billet politique de Jean Lemarié juste après ce journal. Il a disparu pendant un siècle, le portrait de Mademoiselle Liseur de Gustav Klimt est mis aux enchères aujourd'hui à Vienne avec un engagement réparé au passage une possible spoliation pendant le régime nazi. Juger les traîtres sans attendre, à défaut de progresser sur le front face à la Russie, l'Ukraine veut s'assurer de la fidélité de sa population. En 2 ans de guerre, 7000 procès se sont succédés, des civils, des officiels, tous accusés d'avoir sympathisé de près ou de loin avec la Russie, en particulier dans l'est du pays, comme à Kharkiv, ville occupée pendant 6 mois au début de l'offensive russe, où Agathe Mahué, vous avez pu assister à l'un de ces procès.
Une petite salle d'audience, un matin d'avril. L'accusé, Volodymyr Rytsenko, 41 ans, debout dans le box vitré. L'homme est poursuivi pour avoir donné des informations à l'ennemi. Des indications pour aider le renseignement russe à localiser l'emplacement d'un HIMARS, ce précieux lance-roquette de l'armée ukrainienne. Lui s'en défend.
Je n'ai pas collaboré, je suis un patriote ukrainien.
Personne n'est venu soutenir Volodymyr en détention provisoire depuis plusieurs mois. Pour trahison d'État, il risque 15 ans minimum, voire la prison à perpétuité. Des affaires de collaboration par milliers ces derniers mois dans les tribunaux du pays. Les peines diffèrent, mais les acquittements sont très rares. Olena Patsourkovska, avocate dans la région de Kharkiv, n'en a jamais obtenu pour ses clients. Elle raconte le cas de cet homme dans un village occupé, numéro 2 d'une entreprise à l'arrêt.
Les salariés sont venus le trouver pour lui dire qu'ils n'avaient pas de quoi nourrir leurs enfants et qu'il fallait relancer l'entreprise, même sous occupation. Alors il a décidé de collaborer avec les Russes pour que les gens puissent gagner leur vie.
À son procès, l'accusé plaide coupable, mais explique n'avoir pas eu le choix. Olena n'a pas pu lui éviter 15 ans de prison. Et certains défenseurs des droits de l'homme, comme l'ONG ukrainienne Zmina, s'inquiètent de verdicts parfois jugés disproportionnés. Il faut pourtant, d'après le juge Viktor Tcherniak, que la justice ukrainienne soit rapide et exemplaire.
Les gens doivent comprendre que ces actes sont officiellement reconnus comme des crimes par l'État. Et cela permet de faire savoir à ceux qui auraient encore de mauvaises intentions contre l'Ukraine que tout ça n'est pas sans conséquence.
Mais que risquent les Ukrainiens restés vivre dans les territoires occupés depuis 10 ans par la Russie, comme la Crimée, s'ils devaient être libérés un jour ? La législation est floue, reconnaît à demi-mot le juge. Et pour les ONG, c'est même un nouveau modèle qui reste entièrement à dessiner.
Reportage des correspondants de France Culture en Ukraine, Agathe Mahué et Achar Fazilov. L'Ukraine qui attend au plus vite la nouvelle aide américaine après des mois de blocage. Cette nuit, les sénateurs américains ont adopté définitivement un paquet de mesures, parmi elles une possible interdiction du réseau social TikTok et donc aussi l'enveloppe de 61 milliards de dollars destinée à Kiev, Loïc Loury.
79 voix pour, 18 contre, après une interminable journée de débats, le Sénat, sans surprise, a adopté ce plan de 95 milliards de dollars. Les deux tiers de cette somme, 61 milliards, seront consacrés à l'effort de guerre ukrainien, après des mois de blocage à la Chambre des représentants à cause de l'opposition d'une partie des Républicains. Dès hier, le Pentagone affirmait vouloir expédier sans délai pour 1 milliard de dollars de matériel à Kiev, et notamment d'indispensables munitions pour sa défense antiaérienne et son artillerie. Mais le texte voté hier comprenait aussi des aides pour Israël et pour Taïwan, ainsi qu'un ensemble de mesures consensuelles, dont cet ultimatum lancé à la maison mère chinoise de TikTok, sommée de se séparer de son application accusée d'être à la solde de Pékin, sous peine de l'avoir interdite aux États-Unis. Je signerai cette proposition de loi dès qu'elle arrivera sur mon bureau, affirme Joe Biden, confirmant vouloir envoyer envoyer des armes et du matériel à Kiev dès cette semaine. Le texte enfin adopté par le Congrès, au-delà des divisions et des calculs des uns et des autres, montre que le soutien des élus américains à l'égard de Kiev reste très largement partagé.
Les États-Unis, où l'université de New York est devenue le nouvel épicentre de la mobilisation pro-palestinienne, des étudiants, des enseignants campent depuis plusieurs jours dans un climat tendu. 130 ont été arrêtés dans la nuit de lundi à mardi, puis relâchés, Lubna Anaki.
Nous avons tous le droit d'être ici, crie cette étudiante. Depuis plusieurs jours, ils sont quelques centaines à camper sur la pelouse de Columbia. Comme Irish et Mahmoud, ils protestent contre la guerre à Gaza et réclament la suspension des programmes d'échange étudiants avec Israël.
Ils ne peuvent pas nous arrêter. Plus ils essaient de nous forcer au silence, plus fort nous allons crier.
Les étudiants vont rester ici le temps qu'il faut, des jours, des semaines, des mois.
Ces étudiants demandent également la démission de la présidente de l'université qui, il y a quelques jours, a fait appel au NYPD pour évacuer de force le campus. Une intervention policière vivement critiquée aussi par une grande partie des professeurs. La situation crée beaucoup de tensions sur le campus, mais aussi à l'extérieur, en raison d'accusations d'antisémitisme, accusations rejetées par les manifestants pro-palestiniens parmi lesquels figurent des étudiants juifs. Cela n'a pas empêché Johan de venir avec une dizaine de personnes, drapeaux israéliens à la main, demander l'expulsion de ces étudiants.
Il faut envoyer la garde nationale pour les choper par le cou et les virer. C'est simple, le président doit agir en homme et faire ce qu'il faut.
Pour l'heure, les étudiants restent déterminés et d'autres campus les ont rejoints. Yale, Harvard, MIT, où là aussi des arrestations ont eu lieu.
Lubna Anaki à New York. La position des États-Unis dans la guerre Israël-Hamas épinglée par le rapport annuel d'Amnesty International publié ce matin. L'ONG leur reproche de bloquer à l'ONU l'examen de possibles violations des droits de l'homme à Gaza. Plus largement, Amnesty s'inquiète du recul du droit international. Sa secrétaire générale va même plus loin. Selon elle, l'ordre mondial bâti après la Seconde Guerre mondiale est au bord du gouffre.
8h06 sur France Culture, la suite du journal de Valentin Bertrand. Une plainte déposée contre le numéro 3 de la liste Rassemblement National aux élections européennes.
Fabrice Leggeri est accusé par la Ligue des droits de l'homme et Utopia 56 de complicité de crimes contre l'humanité et de complicité de torture. La plainte concerne ses précédentes fonctions entre 2015 et 2022 où il dirigeait l'agence Frontex en charge de protéger les frontières de l'UE. Les associations lui reprochent d'avoir activement facilité des refoulements illégaux en mer de bateaux de migrants, Anne Fauquemberg.
C'est une plainte de 53 pages, avec constitution de partie civile, qui a été déposée hier après-midi au tribunal judiciaire de Paris, selon le journal Le Monde et France Info, qui ont révélé l'affaire. La LDH et Utopia 56 accusent Fabrice Leggeri d'avoir permis notamment l'interception de bateaux de migrants par les gardes-côtes libyens, en faisant obstacle à l'intervention d'ONG présentes en mer, mais aussi en livrant aux Libyens les coordonnées GPS et les photos aériennes de ces embarcations. Or, les Nations Unies avaient établi que ces personnes étaient exposées en Libye au risque de violence, de détention arbitraire, de torture et d'esclavage. L'ancien patron de Frontex aurait aussi facilité le refoulement de bateaux de la Grèce vers la Turquie en refusant, selon les associations, de relayer leurs signaux de détresse. Il aurait de plus dissimulé ces opérations sans les mentionner dans les rapports de l'agence Frontex. Ces accusations sont étayées par des articles de presse, des rapports d'ONG et surtout par un rapport de l'Office européen de lutte antifraude, un rapport qui avait d'ailleurs conduit à la démission de Fabrice Leggeri en 2022. Ce document avait confirmé, par exemple, l'utilisation massive de la technique illégale de refoulement des demandeurs d'asile par les autorités grecques et la connaissance détaillée qu'avait Frontex de ce phénomène.
Et de son côté, Fabrice Leggeri dément et dénonce une manœuvre politicienne pour discréditer la liste RN. On y revient à 8h15 dans le billet politique de Jean Les Maris. Dans la campagne des européennes, Raphaël Glucksmann espère, lui, couper l'herbe sous le pied d'Emmanuel Macron. Le candidat tête de liste Place Publique PS tient ce soir un meeting à Strasbourg, 24 heures avant le discours du chef de l'État à la Sorbonne. Un moment très attendu chez Renaissance, dont les intentions de vote stagnent. Raphaël Glucksmann, lui, est donné en troisième position derrière le Rassemblement National et le parti présidentiel et compte donc bien jouer l'affrontement, Rosalie Lafarge.
Cette prise de parole de Raphaël Glucksmann à Strasbourg était prévue depuis quelque temps déjà, mais pas spécialement vendue par l'entourage du candidat comme un moment important de la campagne. L'annonce par Emmanuel Macron d'un nouveau discours présidentiel à la Sorbonne demain change la donne. À moins de 24 heures du président, la tête de liste Place Publique PS a l'occasion de lui griller la priorité et n'entend pas s'en priver. Avec une différence de forme déjà. On parle à Strasbourg, siège du Parlement européen, en marge de la session en cours, quand Emmanuel Macron donne sa vision depuis Paris, en pleine journée, invitant les eurodéputés alors qu'ils sont au même moment appelés à siéger. Tout est dit ou presque, se félicite un élu socialiste. Sur le fond, ensuite, celui qui a été brièvement, au tout début de la campagne, cajolé par la candidate macroniste, soulignant leur proximité de vote au niveau européen, compte bien profiter de ce moment pour se démarquer des troupes présidentielles. Sur la solidarité sociale, la justice fiscale, la transition écologique, la résistance aux grands intérêts privés, liste Raphaël Glucksmann, qui se voit faire ressusciter la gauche de Jacques Delors et Robert Badinter, une gauche, dit-il, fermement européenne. Façon d'essayer de convaincre une partie des déçus d'Emmanuel Macron de le rejoindre, lui, l'homme de gauche, le vrai, plaide ses proches, plutôt que Valérie Ayé, dépeinte en candidate de droite libérale, d'un camp opposé à tout progrès social. Un camp, celui du président donc, qui continue à faire jusque-là comme si le risque Glucksmann n'existait pas, et s'en remet à son patron pour en faire demain à la Sorbonne la démonstration.
À Strasbourg sera aussi votée aujourd'hui la première loi européenne contre les atteintes des grandes entreprises à l'environnement et aux droits des travailleurs. 11 ans, jour pour jour après l'effondrement du Rana Plaza, un immeuble usine du Bangladesh dans lequel 1000 ouvriers sont morts. Pour empêcher les firmes de fermer les yeux, la France a été le premier pays à créer un devoir de vigilance. Le texte examiné aujourd'hui par les eurodéputés en reprend le principe. Et malgré des ambitions revues à la baisse lors de la bataille parlementaire, cette législation devrait concerner davantage d'entreprises. Les précisions à Strasbourg d'Angélique Bouin.
Ce devoir de vigilance impose aux entreprises européennes de s'assurer que leurs activités, celles de leurs fournisseurs et de leurs sous-traitants partout dans le monde, ne portent atteinte ni aux droits humains, travail forcé, mauvaises conditions de sécurité, travail des enfants, ni à l'environnement, déforestation ou par exemple consommation excessive d'eau au détriment de populations locales. En France étaient concernées les sociétés de plus de 5000 salariés. La loi européenne abaisse ce seuil à 1000 et aux entreprises qui dépassent 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'eurodéputé de la France Insoumise, Manon Aubry, a beaucoup bataillé en faveur de cette législation.
Et ce texte est une petite révolution juridique puisque pour la première fois, des victimes de violations des droits humains, dommages à l'environnement causés par les multinationales pourront porter plainte en justice devant les tribunaux européens, pourront obtenir des compensations et pourront sanctionner financièrement les entreprises.
Des sanctions qui pourront atteindre 5% du chiffre d'affaires net mondial. La directive européenne impose également la création d'une autorité de contrôle national. Nicolas Schmitt est ancien commissaire européen aux droits sociaux, actuelle tête de liste des socialistes. Pour lui, il était temps que l'Europe se dote d'une telle législation.
Vous ne pouvez pas avoir un système économique qui ferme les yeux quand ce sont des enfants qui travaillent, qui sont dans les mines, surtout maintenant en liaison avec la transition écologique, avec le cobalt en Afrique, etc. On ne peut pas avoir un système économique efficace d'un côté, mais qui ferme les yeux sur des conditions de travail affreuses ailleurs. Ça, c'est pas l'Europe, ça.
Une fois votée, cette directive devra être transposée dans le droit français pour une application en 2026.
Le gouvernement français débloque en urgence 650 millions d'euros pour les EHPAD, dont un tiers pour les établissements publics. Une réponse aux difficultés financières du secteur, dit la ministre déléguée Fadila Khattabi. L'année dernière, 85% des EHPAD publics étaient en déficit selon la Fédération hospitalière de France. C'est la vente du siècle en Autriche. Le portrait de Mademoiselle Liseur de Gustav Klimt est mis aux enchères aujourd'hui à Vienne. Ce portrait, même inachevé, fait beaucoup parler. Il vient d'être retrouvé après avoir disparu pendant 99 ans. Cette vente historique soulève donc des questions et des zones d'ombre sur sa provenance, Isorias.
À la maison de Vantim Kinski, les Viennois sont venus nombreux pour admirer au moins une fois ce portrait tout en couleur peint par Klimt, resté caché pendant un siècle. Sibylleux est impressionné.
Évidemment, en tant que Viennois, on connaît bien Klimt. Mais j'avais envie de découvrir un tableau qu'on n'avait encore jamais vu de lui. C'est un Klimt typique, mais je trouve que son langage est ici plus fin, plus subtil dans les lignes. C'est une peinture intéressante.
Le destin de ce tableau, commandé par la famille Liseur, une riche famille juive, n'est pas clair entre 1925 et les années 1960. présente. Une enquête de presse a récemment accrédité l'hypothèse qu'il y ait eu une privation durant la période nazie. Si la vente aura bien lieu, c'est parce que Imkinski avait anticipé une telle possibilité, ce qui montre un changement de mentalité, selon Claudia Mördgasser, qui travaille dans cette maison.
Ce sont précisément ces ambiguïtés et ces lacunes historiques qui ont incité les propriétaires actuels et nous-mêmes à conclure un accord avec tous les ayants droit de la famille Dieser pour une répartition du produit de l'exploitation. Il était clair dès le départ pour nous qu'il fallait traiter ce tableau comme s'il s'agissait d'un cas de restitution évident, même si nous n'avions pas de preuves claires. S'il y a une ombre, la charge de la preuve doit être inversée.
La vente pourrait dépasser les 50 millions d'euros.
Isorias, notre correspondante à Vienne. On termine avec un mot de météo et avec un temps variable, une succession d'averses et d'éclaircies dans l'est et le nord. Le ciel est bien dégagé dans le sud-est. Les températures de 2 à 6 degrés ce matin dans les plaines, de 5 à 9 sur les côtes et cet après-midi de 9 à 11 au nord, de 11 à 14 au sud et jusqu'à 19 au bord de la Méditerranée. 8h15.